dire pourquoi tu es là. Nous sommes la saveur de Dieu sur terre, créée pour montrer la beauté de vie au monde. Nous sommes un pinceau qui donne à une toile blanche son contraste. Nous sommes une ville située sur une montagne qui ne peut pas être cachée, une ville qui chasse l'obscurité. Nous sommes un phare sur le rivage qui perce à travers la tempête de l'océan. Nous sommes l'assaisonnement qui attire le potentiel. Nous sommes des agents d'invitation qui accueillent le fils prodigue à la maison. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes l'Église. Alors ce matin, j'ai envie qu'on puisse pas seulement apprendre des choses, mais qu'on soit vraiment touché par des révélations. La différence entre la connaissance et la révélation, c'est que la connaissance, vous allez peut-être partir d'ici et savoir 3 mots en grec et 4 en hébreu de plus, et c'est formidable. Mais la révélation, ça veut dire que le message que Dieu nous donne, il passe du chemin de notre tête jusqu'au chemin de notre cœur. Et il laisse une trace profonde qui affecte nos vies. Amen. Et si on prend tous le temps le dimanche matin pour venir écouter la parole de Dieu, j'espère que, eh bien, il y a cette révélation qui va prendre place pour nos cœurs. Nous sommes le sel de la terre. Jésus partage ces moments dans un sermon très très célèbre qu'on appelle le sermon sur la montagne. C'est un sermon où Jésus, devant une foule de gens, résume la vie en 30 minutes. Et il explique c'est quoi la vie en 30 minutes. Je ne vais pas être capable de faire la même chose que Jésus ce matin. Moi, je vais me concentrer sur quelques versets. Et à partir de ce passage-là, il parle dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16, un passage un petit peu mystérieux. Il dit ceci, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par des hommes. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que, de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père Céleste. » Voici la première question qui se pose lorsque je lis ce texte-là. Pourquoi est-ce que Jésus nous parle du sel? Il faut donner du goût. Ça veut dire quoi? Et puis le sel ne perd pas sa saveur. Je ne sais pas si vous connaissez, mais le NaCl, ça ne va pas perdre sa fonction de sel. Ce n'est pas capable. C'est salé. Alors pourquoi est-ce que Jésus, que le sel va perdre le goût? C'est quoi cette histoire? On peut voir qu'à l'époque de Jésus, le sel, c'était vraiment la monnaie de l'époque. Tout le monde n'avait pas la capacité d'avoir des pièces d'argent et en or, ou de cuivre qui étaient façonnées par les états ou les villes royaumes. Tout le monde n'était pas capable de ça. Les soldats, par exemple, ils recevaient leur compensation en sel. On leur donnait du sel. Mais pourquoi est-ce que le mot même salaire vient de ça originellement? C'est ce sel, en fait, là. Mais pourquoi est-ce que le sel était si précieux? Eh bien, deux choses. Parce que le sel, évidemment, il donnait du goût aux choses, comme nous aujourd'hui. Si on veut donner du goût à notre plat, on rajoute du sel. Sur les frites, c'est très bon. Mais aujourd'hui, on va chercher du sel dans les mines de sel. On en a en quantité phénoménale. À l'époque, c'était pas du tout la même chose. À l'époque, il fallait aller le long des bords de mer, prendre les algues des plantes qui avaient vraiment absorbé tout ce sel à des teneurs absolument phénoménales. Et les gens utilisaient ça et ils frottaient ces algues contre les aliments. Ils les frottaient pour que, au cours des mois à venir, les aliments rendent toute leur eau au sel et ils ne pourrissaient pas. Je ne sais pas s'il y en a qui sont fans de saucissons. Je vois des oui. Je vois des gens moins motivés. Mais le saucisson, on doit le frotter dans le sel pour que la viande puisse lâcher toute son eau et ainsi ne pas pourrir au cours des mois à venir. Si vous avez déjà fait vous-même votre saucisson, vous allez voir que ça peut tenir, mais pendant des années, c'est absolument extraordinaire. Parce que lorsque l'eau est sortie, lorsque le sel a absorbé toute cette eau, eh bien, l'aliment ne peut plus pourrir. Et donc, il y avait ces grandes feuilles d'algues que les gens à l'époque de Jésus utilisaient pour garder la viande, ils frottaient ça. Mais lorsque on avait frotté ces algues sur un certain nombre de morceaux de viande, eh bien, il y a à partir d'un moment où il n'y avait plus assez de sel. Il n'y avait plus de sel sur ces... Elles étaient plus bonnes à rien. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On jetait effectivement ces choses-là dehors et on marchait dessus. Puis, on allait les mettre comme des espèces d'éléments de paille sur les toits. Et c'est un peu l'image que Jésus fait référence quand il dit qu'on peut juste, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Hier, on avait une prédication à la jeunesse sur le même thème, Et le prédicateur a partagé l'idée qu'il trouve ça intéressant que si le sel absorbe toute chose, il dit, si dans notre vie, on absorbe trop de choses du monde, on devient un petit peu, pas sans goût, mais on a le mauvais goût. Imaginez tout ce sel qui absorbe toute l'eau de tout ce que ça touche. On peut devenir vraiment des choses mauvaises à goûter. On peut pas saler les aliments avec ça. Mais en tout cas, le sel, il donne du goût. Et cela révèle tout le potentiel du goût dans l'analogie de Jésus. Et Jésus nous appelle le sel de la terre. En vérité, on pourrait traduire ce passage, c'est si le sel perd son goût, il perd son but. Si le sel perd son but, il n'est plus bon à rien, donc si tu perds ton but, est-ce qu'on est encore bon à quelque chose? Si on perd notre goût en tant que chrétien, on perd notre but. Notre but de vie en tant que disciple de Jésus, c'est de rester salé. De la même manière que le sel préserve les choses, en tant que chrétien, tu es appelé à préserver les choses de Dieu et d'amener le cœur de Dieu dans la société pour qu'elle puisse se conserver. Aujourd'hui, on prend beaucoup de choses pour acquis. Mais si on remonte à 2 000 à 3 000 ans et qu'on voyait la façon dont les sociétés fonctionnent à l'époque, eh bien, on peut voir avec certitude que l'influence de la vision judéo-chrétienne sur le monde, sur l'humanité, a amené la démocratie, a amené la liberté d'expression, a amené tellement de points forts de notre société aujourd'hui, et même le plus athée de tous les philosophes va admettre que oui, la religion chrétienne a fait avancer la société dans le bon sens. Même le plus athée de tous les philosophes, il va proclamer que oui, les valeurs judéo-chrétiennes ont construit la société d'aujourd'hui. Et on peut voir au cours de l'humanité, lorsque quelqu'un rejette ces valeurs-là, la société passe un peu dans un espèce de mode autodestructeur. Si on commence à dire, par exemple, que l'argent est au-dessus de tout. Jésus a insufflé plein de fois de dire que l'argent n'était pas tout. Maintenant, si on commence à traiter l'argent comme gain premier, comme gain capital, eh bien, la société s'autodétruit, comme on a pu voir en 2007 dans la crise. Il y a plein comme ça, ça c'est un exemple récent, mais il y a plein d'événements comme ça au cours de l'histoire de l'humanité, qu'on peut voir que les valeurs de Dieu, eh bien les valeurs de Dieu conservent cette société. En tant que chrétien, on ne veut pas pousser les valeurs de Dieu parce que c'est bien pour nous, mais on veut pousser les valeurs de Dieu parce qu'on pense que c'est bien pour l'humanité. Moi je me rappelle très bien, j'ai rencontré en Norvège un homme qui s'appelle Hermund. Il est le directeur d'un think tank, donc c'est un groupe de gens qui pensent, littéralement, en Norvège, et je l'ai confronté avec ça. Il m'a dit, voilà, nous on fait le lobby des valeurs chrétiennes dans le monde. Et je lui dis, mais pourquoi est-ce que, c'est quoi l'intérêt de faire ça? Pourquoi est-ce que vous faites ça? C'est pour faire avancer les chrétiens? Je comprenais pas trop. Il m'a dit, non mais on pense pas que les valeurs chrétiennes sont bien juste pour les chrétiens, on pense que c'est bien pour l'humanité. Et que si on amène ces valeurs-là à l'humanité, l'humanité s'en retrouve, améliorer. Donc nous sommes appelés à amener du goût à la société. Si on regarde toutes les grandes cathédrales en Europe, qui ont été construites dans un moment où l'Église avait une forte influence, moi je suis certain que, évidemment, il y avait une idée de démonstration de pouvoir et d'argent dans la construction de cette cathédrale, mais derrière certaines cathédrales, il y avait quand même des gens qui avaient un cœur sincère envers Dieu et qui voulaient lui donner un temple à sa hauteur. Dieu est un roi, moi je vais construire une demeure pour lui, qui est à la hauteur de sa royauté. Évidemment, c'est une mauvaise conception de donner une demeure à Dieu, parce que la meilleure demeure qu'on peut donner à Dieu, c'est nos cœurs. Mais en tout cas, c'était l'idée derrière, c'était on peut entrer dans une église catholique et comprendre que Jésus, c'est un roi. C'est pas seulement notre ami, mais c'est aussi quelqu'un qui est un roi, et une demeure énorme, avec des espaces énormes qui démontrent la majesté des choses. Je ne sais pas si vous avez déjà été en Italie. Ça fait plus ou moins 2 ans que j'y vais, moi, parce que mon frère m'y invite. Et là-bas, on va dans n'importe quel petit musée de régionaux, il y a 50 peintures d'artistes dont personne ne connaît le prénom, mais apparemment elles sont célèbres. Alors qu'en Belgique, on aurait peut-être une peinture célèbre dans une grande ville. Ils ont un patrimoine culturel absolument phénoménal. C'est incroyable. Et entre autres, les cathédrales, les églises dans les villages sont phénoménales. On entre dans ces églises-là et c'est à chaque fois des œuvres d'art absolument superbes. Maintenant, imaginons un petit peu que les gens aujourd'hui retournent dans ces cathédrales pour l'architecture, pour le côté culturel. Et ça me laisse la question, est-ce que dans 100 ans d'ici, on entendra parler de la célèbre église de Rosset et on viendra voir la peinture de Saint Pascal sur le mur, qui est une conception postmoderne de la peinture. Et à côté de lui, il y aura Saint Chantal juste à côté. Est-ce que c'est ça que les gens vont se souvenir de l'Église, le patrimoine culturel, architectural? Là, on peut voir qu'à partir d'un moment, l'Église, elle a perdu son goût. Elle a perdu son but. Alors qu'on devrait être dans l'endroit où on trouve Dieu, eh bien les gens vont chercher autre chose, ils vont chercher de l'art. C'est beau l'art, c'est très bien l'art, moi je dis tout pour l'art. Mais quand on est dans une église, pour moi, c'est un moment tellement précieux où on pourrait rencontrer Dieu. Et on perd un petit peu son goût, on perd son sel, son goût. Un chrétien, il a une zone d'influence et il est appelé à éclairer le monde. C'est une autre image que Jésus prend, c'est l'image de la lumière. Nous sommes la lumière. Alors il faut aller sur le toit pour éclairer tout Boisvillers, sous profonde ville. On est la lumière de cette région. Tel que Dieu, il a placé les étoiles dans le ciel pour apporter de la lumière dans la nuit. Dieu, il t'a placé stratégiquement pour apporter de la lumière autour de toi. On peut voir dans la parole de Dieu que dans Actes 17, il est marqué qu'il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre. Il a déterminé la durée des temps et les limites de leurs habitations. On peut vraiment voir que Dieu nous a placés dans un temps et un espace bien spécifiques. Dieu, c'est pas un monolithe géant qui ne bouge pas. Dieu, il est absolument et complètement intentionnel. C'est peut-être la différence, si on prend une fois avec des musulmans, où Dieu est très... il bouge pas. C'est vraiment cette puissance énorme, monolithe, qui n'interagit pas avec l'humanité parce qu'il est trop saint. Mais la parole de Dieu nous enseigne que c'est pas comme ça que Dieu il est. Dieu il est absolument personnel et il fait les choses intentionnellement. Donc quand il t'a créé, il a pas fait « Allez, ouais, je laisse juste les choses se passer. » Moi, je travaille beaucoup avec des jeunes, avec des adolescents. Je sais pas si vous avez déjà essayé de motiver un adolescent à faire quelque chose et puis il vous répond « Tu veux aller là-bas ? » ?»« Ouais. » »« Tu veux manger ? » ?»« Ouais. » »« Tu veux faire quelque chose ? » ?»« Non. » mais c'est normal, c'est dans l'adolescence, on apprend à gérer nos émotions, on sait pas toujours ce qu'on ressent, c'est un moment difficile, donc on ne sait pas ce qu'on ressent. Mais Dieu, c'est pas un adolescent qui ne sait pas ce qu'il ressent, il est tout à fait conscient de ce qu'il ressent, et il sait pourquoi il t'a placé là où il est, et ce qu'il veut que tu fasses. Amen. On sait un Dieu qui est temporel, et ta destinée, c'est d'être une lumière sur cette terre. On est le plan de Dieu pour Boisvillers, tu es le plan de Dieu pour tes amis, pour tes collègues, pour les gens que tu vas atteindre. Si tu ne trouves pas qui tu es, si tu ne trouves pas qui tu es dans ta vie, commence à servir les gens. Moi, je suis certain qu'à travers le service des gens, on trouve qui nous sommes. Je me rappelle très bien, j'ai un cours de psychologie, on voyait un peu les choses sur la dépression, et le professeur expliquait dans ce cours sur la psychologie, il expliquait que dans les gens qui étaient vraiment dans des crises de dépression assez fortes, on les encourageait à aller par exemple servir la soupe au SDF. On les encourageait à pouvoir aller, pendant les périodes de Noël, à aller servir la soupe au SDF ou aller leur apporter des choses, des cadeaux. Et c'était assez étonnant parce que ces gens qui mettent vraiment des dépressions profondes, hein, des trucs sérieux, les psychologues encourageaient l'autre à aller voir au-delà d'eux-mêmes pour trouver la solution. Et on peut voir, pour moi, c'est un principe qui rejoint tout à fait ce que la Bible essaie d'enseigner, c'est que en pratiquant ce service, en donnant un but à notre vie, on trouve quelque chose, on a un miroir qui nous renvoie qui nous sommes, et on trouve comme ça, on allume un moteur. En fait, à la fin, ça va nous renvoyer à Dieu, mais ça donne un sens. Ta vie est faite pour avoir un sens, ce n'est pas juste pour être un bruissement de vent et puis c'est tout. Souvent, je me suis remarqué qu'on prie Dieu, Seigneur, sauve mes amis, sauve ma famille. Seigneur, sauve cette personne, elle a tellement besoin de toi. Et puis, on se rend pas compte que c'est nous que Dieu a appelé pour aller parler à cette personne-là. Je sais pas si ça a déjà arrivé, moi, j'ai vu des chrétiens prier avec une ferveur. Mais quelle ferveur, quelle prière. Et Dieu leur renvoie la balle. Ok, c'est bon, je suis convaincu, vas-y. Ok, on y va. Et puis, il a dit, Seigneur, sauve-la! Dieu, oui, on va la sauver, vas-y, je t'envoie. Et on reste mobile. Ça nous challenge, hein, ça nous défie. Moi, je me rappelle très bien, j'ai eu parfois des gens sur le cœur, mais vraiment très fort, et Dieu me renvoyait là-bas. Il est là, ben oui, vas-y, on y va, Benjamin. Tu es là pour eux. Nous sommes le plan de Dieu pour nos amis, pour notre famille, pour nos collègues. Je remarque parfois qu'on va vite devenir nonchalant par rapport à notre foi. Moi, je n'aime pas quand le sel perd sa saveur, et j'ai remarqué que durant toute ma courte vie, j'ai 28 ans, je suis jeune, enfin j'espère, c'est à quelle vitesse on peut devenir nonchalant en tant que chrétien. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, je suis parti de chez mes parents quand j'avais 18 ans, je voyageais en Amérique du Nord, en Europe, Moyen-Orient. J'ai parlé avec des gens de l'amour de Dieu, des gens de tout horizon, de différentes religions, des gens qui pratiquaient la magie, des magies bizarres, des gens qui étaient dans des religions new, enfin, j'ai rencontré plein de gens, des gens qui étaient dans la drogue, qui sortaient de la prison. J'ai été missionnaire, j'organisais des campagnes d'évangélisation, j'ai prêché dans les églises et maintenant je travaille dans le pastorat. Et je vais mettre au clair que c'est pas mes compétences qui m'ont amené à faire tout ça, hein. Faut pas m'éprendre, mais c'est juste que à partir du moment où on dit Dieu je suis disponible, ben il saute sur l'occasion. Mais le plus incroyable pour moi dans tout ça, c'est lorsque je revenais en Belgique, à quelle vitesse on pouvait baisser le bras par rapport à la destinée que Dieu a mis sur notre vie. Après toutes ces campagnes, après ces miracles, à quelle vitesse la nonchalance peut prendre possession de nous. Moi, j'ai pas envie de vivre ma vie en ayant une double ou une triple identité chrétienne. Être un chrétien en feu lorsque je suis à l'église, et puis et dans les choses chrétiennes, hein, quand je vais au concert, chrétien et des choses comme ça, et puis je deviens fat quand je vais au boulot. Moi, j'aime pas cette idée-là, ça me révolte. La vérité, c'est que peu importe à quel point le milieu dans lequel on est, il est noir, on peut briller plus fort. Peu importe à quel point le milieu autour de nous, il est noir. Moi, la société qui va mal, j'entends beaucoup de chrétiens qui ça fait peur, que c'est la fin du monde. Moi, ça ne me fait pas peur, parce que je sais qu'au plus la société sera noire, plus la lumière qu'on dégage sera forte. Au plus il y a d'obscurité dans notre vie, au plus si on s'appuie sur Dieu, cette lumière, elle va commencer à briller. Et elle va commencer à montrer qu'il y a une différence. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens qui étaient dans des situations difficiles, mais je me rappelle, il y avait un télé-évangéliste célèbre aux États-Unis qui a dérapé, qui était en prison, et un journaliste lui demandait « Est-ce que vous avez perdu beaucoup d'amis après cette épreuve-là ?» Il a dit, j'ai pas perdu mes amis, j'ai juste trouvé qui étaient mes amis. J'ai pas perdu mes amis, j'ai juste trouvé qui étaient mes amis. Pour moi, les gens voient, quand je prends quelqu'un qui part vraiment, je ne sais pas moi, oui, par exemple, une fille ici qui est tombée dans une dépression profonde, elle vient de ma ville, j'ai rencontré dans un bar, c'est bizarre, elle est droguée, à la cocaïne, elle est en désintox, c'est vraiment une fille qui a une vie difficile. Et sa vie est en train de se détruire là. Son petit copain s'est suicidé il y a 2 semaines. Vraiment une situation absolument horrible. Et il est en train de voir à travers toute cette histoire qui sont les gens qui restent. Elle est très jeune, hein, mais dans le milieu de la fête de Waterloo, de ma ville, dans le milieu des gens qui sourissent, qui dépensent de l'argent. Quand les problèmes et la souffrance elle arrive, il y a beaucoup de gens qui s'en vont. Et on peut se poser cette question, qui est là quand on va mal? Qui est encore disponible? Les gens ne font pas la file pour s'aider les uns les autres. Hein. Et c'est là que moi je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer avec notre lumière. C'est notre responsabilité de pouvoir aider les gens qui sont dans le besoin. C'est vraiment la nôtre. Parce que les gens ne vont pas venir. Le plus grand danger lorsqu'on veut servir Dieu, c'est de mettre trop notre identité dans ce qu'on fait. Nous sommes trop comme des éponges. Je me rappelle, je parlais à une fille qui était à l'université. Elle revenait d'un champ missionnaire et elle disait avec beaucoup d'honnêteté, écoute, moi j'ai envie que les gens m'aiment bien. J'ai envie que les gens de ma classe m'aiment bien. Et elle se sentait mal par rapport à ces sentiments-là. On a parlé et on a défini ensemble qu'elle n'allait pas aller dans cette université avec l'idée qu'est-ce que les gens vont penser de moi, mais en étant absolument confiante dans qui elle est en Dieu et de pouvoir dire, voilà ce que moi j'amène. Et alors, la mentalité est totalement différente. Quand j'arrive en classe, ça m'est égal le regard des autres, mais moi je suis déjà en train de penser qu'est-ce que je peux atteindre ici? Qu'est-ce qui a besoin d'une parole d'encouragement? Qu'est-ce qui a besoin d'une différence dans sa vie? Ça prend quand même quelque chose d'autre, hein, de pouvoir s'imaginer qu'on arrive dans une pièce et on a tellement confiance en qui nous sommes qu'on est un peu, justement, on s'en fout de ce que les gens pensent, mais on est juste en train de dire, ok, moi je sais qui je suis en Dieu, j'ai pas besoin du regard des autres, j'ai pas besoin de ce que eux ils vont m'apporter, parce que j'ai Dieu qui me l'a dit. Vous voyez ce que je veux dire? Nous devons garder notre goût et nous devons pouvoir être confiant dans notre identité, nous devons être intentionnels dans notre appel et choisir comment garder notre goût. Nous sommes le sel de la terre et ce qu'on a reçu de Dieu, on doit le garder et le partager. Bien sûr, il y a cette question qui arrive quand on parle de ça, c'est comment est-ce que moi, en tant que chrétien, je garde mon goût? Comment garder mon goût en tant que sel de la terre? Je pense que le premier, c'est en entretenant ma relation avec Dieu. Je me rappelle une fois un jeune, j'avais posé cette question-là de façon ouverte et il a dit, il faut connaître Dieu soi-même, pas parler du Dieu de quelqu'un d'autre. Il faut connaître Dieu soi-même pour pouvoir en parler. Si j'allais dans les rues et que je parlais aux gens du Dieu de Pascal, mais que je n'ai pas une rencontre personnelle avec ce Dieu-là, ce serait bien vide. Mais si j'ai une relation avec Dieu, si j'entretiens un lien avec Dieu qui m'abreuve, où j'apprends qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il veut, eh bien là j'ai un témoignage à donner, là j'entretiens, là je ne perds pas mon goût. On ne doit pas parler du Dieu des autres, mais il faut parler du Dieu de soi-même, il faut pouvoir entretenir notre relation avec lui. Et ça peut prendre des formes aussi originales qu'il y a de gens sur la terre. La façon dont tu parles à Dieu, je te la laisse, c'est la tienne, mais c'est trouver un moment. Ok Seigneur, moi je te donne ce moment, c'est à toi, je veux passer du temps avec toi. Il y en a qui c'est lire la Bible, il y en a c'est passer un moment dans la prière, il y en a c'est faire un travail avec le Seigneur, avec eux. Je connais des gens, c'est vraiment des machines, donc il faut qu'ils soient toujours en mouvement. Donc eux, ils font quelque chose avec Dieu. Ça peut paraître bizarre, hein, mais il y a ce moment de communion. Moi je crois que c'est possible, Dieu il est content de passer du temps avec nous, et on passe du moment. Ça peut être venir à une étude biblique, ça peut être venir à une réunion de prière, être connecté à Dieu. La deuxième chose pour ne pas perdre son goût, c'est une communion entre chrétiens. Il faut pouvoir garder le contact entre frères et sœurs en Christ. Car on n'est pas invincible, mais sous l'Église, on est couvert. Si j'ai un moment de faiblesse, j'ai des amis qui sont là pour m'aider. Et si eux ont un moment de faiblesse, eh bien, moi je suis là pour les aider. Et évidemment, ça défie l'Église locale par rapport au fait que il était arrivé dans le passé que l'église locale, quand quelqu'un est dans un moment de faiblesse, on le refrappe encore une fois. Et évidemment, ça c'est totalement dénaturé le rôle de l'église. Si l'église, elle existe, c'est pas pour nous pousser sur le sol les uns les autres, mais au contraire, nous relever les uns les autres. Et on peut être vraiment inspiré de voir quand quelqu'un est en train de mettre quelqu'un à terre dans l'église. Fais pas ça. C'est pas le rôle de l'église. C'est pas pour ça qu'on est là. On est là pour s'encourager. Si le frère ou la sœur ne va pas bien, eh bien, on va prier ensemble, on va prendre un moment, on va s'encourager les uns les autres. Amen. Ça nous défie, hein, parce qu'on a peut-être une ou deux fois où on n'a pas agi super bien envers un frère ou une sœur, mais on se concentre sur le futur. On se dit, ok, Seigneur, je te demande pardon, je vais demander pardon à la sœur, moi j'avance, maintenant je veux relever les autres autour de moi. Et quand on sera face à quelqu'un qui nous a relevés, alors ça vient tellement fort. Moi, je me rappelle, il y a des moments dans ma vie où il y a 2-3 personnes qui sont venues à un moment stratégique et qui m'ont relevé quand je n'allais pas bien. Ça a impacté ma vie. Ça vient naturellement. On a envie de faire la même chose pour les autres. C'est comme un scénario qui se répète à ce moment-là. Nous sommes liés par l'esprit, nous avons une communion ensemble. Et c'est pas seulement être présent en réunion, en demeurant avec des chrétiens, mais c'est, on a un même esprit, on a une même façon de penser. Moi, je pense qu'on doit faire des choses ensemble, pas seulement dans l'église, mais aussi en dehors de l'église. Si vous avez déjà eu des amitiés avec des frères ou des sœurs en Christ, des amitiés avec des chrétiens, c'est très précieux. C'est très précieux parce qu'on reste connecté d'un même esprit, d'une même vision. Il y a quelque chose de spécial. Et ça peut être juste inviter quelqu'un à venir à la maison, ça peut être juste même aller au café, boire un verre avec cette personne-là et partager un moment qui peut paraître mondain aux autres. Mais quand les gens en Christ sont ensemble, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une force là-dedans. Et ça nous permet de ne pas perdre notre goût. Une dernière chose que j'aimerais dire pour ne pas perdre notre goût, il faut pratiquer les dons que Dieu a mis en nous. Il faut pratiquer les dons que Dieu a mis en nous. Surtout, on peut surtout voir ça dans les artistes. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. Les artistes, ils ont un besoin d'exprimer leur art, sinon ils meurent. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des artistes, mais les personnalités des artistes, c'est ça. On ressent les émotions extrêmement fortes, et si on ne pratique pas les choses qui sont là, eh bien les artistes ils deviennent un peu fous comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens comme ça, mais ça arrive, et un peu, on peut prendre cette image-là pour s'appliquer ça. Dieu il a mis certains dons en nous, et il faut les mettre en place pour pouvoir ne pas perdre notre goût. Si Dieu nous a appelés à écrire des chants, moi je pense qu'il faut écrire des chants. Il faut continuer, même si on ne sort pas de CD, même si il faut continuer à entretenir. C'est la parabole des talents, hein, ça évidemment. Si Dieu nous a appelés à tenir la porte à l'arrière et à sourire aux gens quand ils rentrent, il faut faire ça. Il faut pouvoir faire ce que Dieu nous a appelés à faire. Si nous, notre appel, c'est les dons que Dieu a mis en nous, c'est de servir les gens, c'est de pouvoir être quelqu'un de disponible, de pouvoir aider les gens en difficulté, il faut mettre ça en pratique. Parce que si on met plus ça en pratique, on meurt un peu chaque jour. Et en faisant ça, on ne va pas perdre notre goût, on ne va pas perdre notre saveur. On doit pouvoir trouver une plateforme pour exercer les choses que Dieu nous a données. Dans toutes les choses que j'ai citées là, il faut être intentionnel. Ça ne va pas se passer tout seul. Il faut nous décider de nous mettre en route. Ça prend quelque chose de notre part. Pour terminer, je voudrais bien laisser cette question qui doit nous travailler. Comment éclairer l'obscurité autour de moi chaque jour? Comment est-ce que moi, en tant que chrétien, on a vu des façons de ne pas perdre notre goût? J'ai cette énergie, j'ai cette force, j'ai cette relation avec Dieu. Maintenant, comment est-ce que je mets ça en pratique pour pouvoir éclairer les gens autour de moi? Que ce soit des gens qui connaissent Dieu ou pas, hein, peu importe. Parfois, on pense que c'est toujours spirituel si on parle aux gens de Jésus. Démontrer de l'amour à quelqu'un, c'est tout aussi spirituel. C'est tout aussi spirituel. Aller aider un frère ou une sœur à déménager, aller aider quelqu'un à déménager, tout aussi spirituel. Hein? Quand on fait les choses, hein, on n'est pas dissocié entre notre âme, notre corps et notre esprit. Quand tu fais quelque chose, ton âme et ton esprit y suivent. Hein? Y a pas ton corps qui fait un truc, ton âme est ailleurs, ton esprit. Non, c'est tout ensemble. On est un paquet, hein, on est vraiment serré. Donc, comment est-ce que quel temps on met à pouvoir partager cette lumière-là? Il faut être à nouveau intentionnel. Ça pourrait être social. Moi, j'ai mis aller au bar avec les gens, c'est ce que je fais à Waterloo. Les jeunes entre 18 et 25 ans, ils vont tout souvent dans les bars parce que c'est là où ils vont. Et moi, j'ai décidé il y a un an et demi d'ici, j'avais un ami qui s'appelait Adam. On allait là et on parlait, on était juste des personnes positives dans la vie des gens. Juste des personnes positives. C'est-à-dire quoi? Des gens qui veulent leur bien. Vous n'avez pas idée à quel point c'était fou pour le public qu'on avait. Juste être des gens qui sont là. Et on faisait pas d'efforts, on était juste sympa avec les gens. C'était tout, hein. Il n'y avait rien de spécial. Et on n'a pas parlé à Dieu de tout le monde. On était juste présent et on n'avait pas de mauvaises intentions envers eux. Alors évidemment, ça avait une lumière qui brillait très fort. Quand on était dans la salle, que je sais pas, moi, il y a des gens qui prenaient de la cocaïne derrière, qu'on était dans la salle. Ça peut peut-être vous choquer, hein. Vous pensez peut-être que des chrétiens ne devraient pas être là. Mais moi, j'avais vraiment cette conviction en moi. Si la vie n'est pas là pour faire une différence, à quoi ça sert? Si ma lumière, je la garde dans mon église, dans mon petit terrain, j'ai pas envie de me salir avec ces gens-là. Mais Dieu, il veut être avec ces gens-là. Dieu, il est avec ces gens-là. Une passion incroyable pour toute personne qui a besoin de lui. Mais bref. Je pars dans un autre serment, c'est pas grave. En tant que missionnaire, en tant que chrétien, il y a des gens qui ont dit ça. En tant que chrétien, tu as un missionnaire ou tu as un champ de mission? En tant que chrétien, tu as un missionnaire ou tu as un champ de mission? C'est très intéressant, moi, je trouve cette phrase. Est-ce que nous sommes des gens qui vont vers les autres, qui apportent quelque chose, ou est-ce que nous, on a besoin que quelqu'un vienne nous apporter quelque chose? Est-ce qu'on est ce champ de mission ou ce missionnaire? Et je ne parle pas du fait que parfois on donne et parfois on a besoin de recevoir. C'est pas du tout ça que je parle. Je parle de rentrer dans cette nonchalance chrétienne bien connue en Belgique où on va à l'église le dimanche, on va à la réunion de prière et je vais à l'église pour recevoir. Je suis chrétien à l'église, je me lève le matin, je vais au boulot et c'est tout. Là, je suis un champ de mission total. Parce que je reçois, mais je ne produis rien. Alors, est-ce que je suis un missionnaire? Est-ce que ce qui m'est apporté pendant ces moments, je réussis à le donner? À nouveau, quelque chose qui nous défie. En tant que chrétien, on est un missionnaire. On en a besoin d'un. Il y a tellement de façons dont on peut atteindre les gens autour de nous. On doit avancer vers ce but de vraiment garder notre goût en tant que chrétien et de réfléchir à des manières de le faire intentionnellement et persévérer là-bas, surtout quand les choses vont mal. Je vais bien finir avec un passage dans Romains 12. Ce titre de Romains 12, donc c'est l'apôtre Paul qui écrit Romains, le livre des Romains, et c'est vraiment un livre assez théologiquement assez gros. Ça contient peut-être toute la théologie chrétienne de Paul, donc c'est un peu peut-être rébarbatif. Mais il parle dans le chapitre 12 de la vie nouvelle, donc de quelqu'un qui connaît Dieu. Et je voudrais bien commencer au verset 9. Donc quelqu'un qui a rencontré Dieu, Paul vient les encourager à pas avoir une haute opinion d'eux-mêmes, mais de pouvoir continuellement garder leur goût en tant que sel en renouvelant leur intelligence. Et puis il dit ceci. Il dit que votre amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Quant à l'affection fraternelle, soyez plein de tendresse les uns pour les autres. Soyez les premiers à honorer les autres. Ne soyez pas paresseux, mais empressés. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur comme des esclaves. Réjouissez-vous dans l'espérance, endurez la détresse. Consacrez-vous assidûment à la prière, soyez solidaires des saints qui sont dans le besoin, poursuivez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord d'entre vous. Ne soyez pas orgueilleux, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, ne vous croyez pas trop avisé. Ne rendez à personne le mal pour le mal, et efforcez-vous de ce qui est bien devant tous. S'il est possible, pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous. Ne vous faites pas justice vous-même, mais laissez la place à la colère, laissez-la à Dieu, car il est écrit, c'est moi qui fais justice, c'est moi qui paierai de retour, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des braises que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Amen. Amen. Ce magnifique passage dit que nous, notre lumière en tant que chrétiens, eh bien, on va pouvoir vraiment éclairer toute l'obscurité. Et quand le mal va venir vers nous, Paul nous dit qu'il va falloir être intentionnel dans la façon dont on réagit. On va devoir choisir, moi j'ouvre ma lumière, j'ouvre ma lampe, et je laisse le bien que Jésus a déposé en moi chasser tout mal. Amen. Amen. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole qui nous éclaire, Père. Je te remercie pour ce message que tu le donnes comme révélation ce matin. Je prie qu'il puisse venir vraiment percer dans tous les cœurs. Jésus, viens nous aider à pouvoir garder notre goût, garder notre sel, notre but en tant que chrétien. Jésus, qu'on ne puisse pas être des gens à gauche et à droite qui répètent les mêmes choses par habitude, mais qu'on puisse juste être ces personnes, Seigneur, qui sont disponibles pour toi à te servir, à apprendre qui tu es. Jésus, je te prie pour tous les gens qui ont des fardeaux dans le cœur en ce moment. Je prie que tu puisses venir vraiment les prendre, Seigneur. Et que tu puisses juste vraiment remettre une paix à la place, Seigneur. Il y a des moments où on est fatigué, il y a des moments où on a besoin de toi, Jésus, et on sait que tu es là pour nous. Seigneur, merci parce que tu nous as fait la promesse que, eh bien, même si on avait des douleurs dans la vie, de la souffrance, tu serais toujours là pour nous accompagner. Et on veut entrer dans cette révélation. Seigneur, je veux que chacun puisse être ici habilité et mandaté à parler de toi, Jésus. Habilité et mandaté à proclamer les bonnes choses que tu fais dans la vie. Seigneur, enlève tout masque de nos visages devant nos amis, notre famille, nos collègues. Fais juste resplendir ta face devant les gens, Jésus. Que ton visage soit sur le nôtre. Seigneur, je prie aussi pour tous les manquements parfois en fait, Seigneur, pour toutes les paroles qui dépassent, qui sont exprimées dans la colère ou les choses comme ça, Seigneur. Fais nous aider à pouvoir demander pardon rapidement, Seigneur, les uns aux autres. À pouvoir être toujours dans une attitude d'amour, Seigneur, à garder la paix quand ça dépend de nous, avec tous. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu fais ce matin. Continue à nous guider, Seigneur, dans ton nom, Jésus. Amen. Amen, amen. On va avoir un dernier chant conduit par l'équipe de louanges. J'encourage chacun à pouvoir vraiment méditer ces paroles dans le cœur et juste se présenter devant le Seigneur qui a quelque chose à nous dire personnellement. Amen.